parfois, on y parle du travail d'autres médias que nous, des médias qui ont d'autres objectifs que nous jugeons utiles. C'est le cas de Splan, un média d'enquête en Bretagne qui vient de sortir le premier volet de sa toute dernière enquête. Il s'agit de la méthanisation pour produire du gaz à partir des déchets de l'agriculture, mais aussi des plantes. La méthanisation se développe à vitesse grand V en Bretagne, mais elle ne va pas sans poser de nombreux problèmes révélés par Splan dans ce premier volet d'enquête. Alors, Juliette Cabasso-Roger est membre du comité éditorial et cofondatrice de Splan. Elle était au Festival de cinéma de Douarnenez fin août et elle nous avait expliqué comment travaillent les journalistes de Splan.
Alors, la création de Splan, ça a été une rencontre entre journalistes qui sont bretons ou qui travaillent en Bretagne, qui se retrouvaient autour d'une même envie qui était en fait d'enquêter et de faire sortir certains sujets qui n'étaient pas à nos yeux suffisamment traités par la presse locale ou nationale d'ailleurs. Et en fait, ça a été beaucoup on s'est beaucoup fédérés autour d'Inès Leroux, donc autrice de la BD sur les algues vertes, qui à ce moment-là subissait beaucoup de pression par rapport à sa BD, donc des intimidations, des menaces. Et on s'est beaucoup fédéré autour d'elle et à ce moment-là, elle travaillait pour Disclose, qui est donc un média national sur lequel on s'est calqué. Et l'idée est née de là, de créer en fait une petite antenne, si on peut dire, de Disclose qui finalement est devenue complètement indépendante d'eux, donc en Bretagne. Voilà.
Et donc le but, c'est de faire des enquêtes, mais peut-être pas n'importe quelles enquêtes, quoi.
Oui, alors l'idée c'est vraiment de ressortir des informations, pas forcément des informations nouvelles, mais en tout cas qu'on estime qu'ils ne sont pas forcément mises en lumière en fait. Et donc c'est toutes ces informations dont on estime qu'il y a besoin encore d'avoir un débat dans la société bretonne, ou même nationale d'ailleurs, pas que. L'idée c'est vraiment d'aller creuser là-dessus, ça peut être des nouvelles informations, donc des enquêtes qui vont révéler des choses, mais ou sinon d'aller chercher les choses pour les remettre sur la place publique pour qu'il y ait redébat sur ces choses-là, quoi.
Vous avez des thématiques de prédilection, je suppose ?
Alors, on est tous très portés sur l'environnement, en règle générale. Après, on reste beaucoup sur l'agroalimentaire. C'est autour de ça qu'on s'est fédérés aussi. Mais parce qu'en fait, en étant en Bretagne, on ne peut pas passer à côté de l'agroalimentaire. C'est quand même un des thèmes, que ce soit socio-économique, le plus important. Mais par contre, on ne se ferme pas du tout sur tous les autres thèmes. Il peut y avoir justement des enjeux de santé, ça peut être politique. Enfin, voilà, on est vraiment ouvert à tous les sujets dont on estime qu'ils ont un intérêt pour les Bretons, quoi.
Oui, justement, alors comment ça se passe la naissance d'une enquête de A à Z ?
Alors ça peut être de plusieurs façons, parce que depuis qu'on a créé ce plan, on a énormément d'alertes sur notre boîte mail générique, on va dire, de gens qui nous racontent plein de choses, de petites choses qui se passent à côté de chez eux, à des choses un peu plus générales. Et nous-mêmes, en tant que journalistes, on a une très longue liste de sujets qu'on aimerait aborder ou voir aborder. Donc du coup, en fait, on se réunit en comité éditorial avec toute cette liste sous les yeux, toutes les alertes que les gens nous envoient. On essaie de les mettre bout à bout et en fonction de l'actualité du moment, de l'urgence des sujets ou de l'autre, on essaie de choisir. C'est pas toujours facile, mais voilà.
Alors, une fois qu'un sujet est choisi, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, quand un sujet est choisi, il faut trouver les journalistes qui vont travailler dessus. Donc, on essaie de travailler toujours en binôme, donc pas forcément tous les deux avec la même expérience égale de l'enquête. Justement, ça peut être un journaliste qui est plus aguerri avec un journaliste qui est plus débutant dans le sujet. On essaye d'avoir une cohérence géographique aussi pour choisir nos journalistes, de qu'ils soient implantés dans le territoire où l'enquête va se dérouler, ce qui est assez important aussi. Et donc une fois qu'on leur propose le sujet et qu'ils acceptent, on les lance et ils sont salariés officiellement. Voilà.
Donc en mi-temps pendant 3 mois, c'est ça ?
Voilà, alors c'est un équivalent mi-temps, c'est un peu pour nous pour compter les heures, mais ils sont rémunérés à la pige, mais à l'équivalent du temps de travail d'un mi-temps, quoi. Voilà.
Et alors, toi-même, tu enquêtes, donc tu ne vas pas nous dire sur quel sujet, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait une enquête pour les gens qui ne connaissent pas du tout le journalisme, mais comment on fait ?
Comment on fait ? Ça dépend un peu des sujets, mais ça dépend aussi si on a un lanceur d'alerte ou pas. C'est ça qui change beaucoup. Souvent, se lancer sur un sujet comme ça, où on n'a aucun fil par lequel tirer déjà de base, c'est quand même assez compliqué. Donc c'est vraiment de trouver cet élément qui va déclencher l'enquête, donc que ce soit une personne, un document. Et en fait, en partant de là, il y a plusieurs bases, mais la recherche sur Internet est devenue indispensable pour l'enquête aujourd'hui. Donc effectivement, on va aller sur le terrain, on va effectuer des entretiens, mais on va aussi beaucoup, beaucoup aller fouiller, nous, de notre côté, à Splant, dans les documents, tout ce qui est administratif, tout ce qui est en source ouverte, qui n'est pas forcément confidentiel, mais pas forcément montré non plus. Il faut juste savoir où aller les chercher. Donc, vraiment, toutes ces données, comme pour l'ammoniaque, les données des émissions, enfin, voilà, on va aller chercher toutes ces choses qui, mises bout à bout, en fait, vont faire l'enquête. Et en allant creuser, c'est vraiment un fil à tirer, quoi, aller voir qui s'occupe de quoi, quelle personnalité est à quel poste, et où on la retrouve, comment fonctionne tel système. Et finalement, c'est vraiment essayer de comprendre tous les rouages autour de l'enquête, quoi.
Et comment on fait quand on voudrait avoir quelqu'un mais qu'il ne veut pas parler
Alors ça, c'est compliqué, mais après, il arrive un moment où si la personne, finalement, pour faire le contradictoire, souvent qu'on a ce cas de figure, mais si la personne ne veut pas répondre, on indique qu'il n'a pas voulu répondre, mais voilà, on insiste quand même pendant un petit peu de temps, que ce soit par mail, par téléphone, etc. Ça arrive aussi de se présenter physiquement pour essayer d'avoir un contact, hein. Mais après, il y a toujours la question en journalisme de est-ce qu'on peut... œuvrer en cachet d'une certaine façon, est-ce qu'on peut aller en micro caché, en caméra cachée? Pour l'instant, nous, à Splant, on en a pris le parti de ne pas le faire, mais ça peut être une solution aussi si vraiment on a besoin d'une information essentielle pour l'enquête, quoi.
Alors là, il y a déjà 3 enquêtes qui sont sorties. Quels étaient les sujets, puis en gros, qu'est-ce qu'on y apprenait, quoi?
Ouais, alors la première enquête, c'était sur la pollution à l'ammoniaque. Donc c'est un sujet qui est parti de l'entreprise La Timac à Saint-Malo, qui est en fait une entreprise qui fait de l'engrais agricole, donc de l'engrais azoté, et donc qui émet beaucoup d'ammoniaque, donc qui est un gaz qui se propage dans l'air, en fait. Et en fait, on a élargi ce sujet-là à la Bretagne entière, parce qu'en fait, c'est une des premières régions d'émissions d'ammoniaque en France et en fait en Europe, derrière les Pays-Bas. C'est en fait, la Bretagne concentre pratiquement toutes les émissions françaises. Et c'est un gaz, en fait, qui, mélangé avec les particules fines, va provoquer énormément de problèmes respiratoires, de maladies cardiovasculaires, etc. Donc, c'est un problème agricole, puisque ces émissions viennent, en fait, des élevages intensifs, donc d'éjection des animaux, et qui va se propager en sujet de santé pour les gens. Ah
ouais. Malgré le vent, il y a des concentrations d'ammoniac qui sont délétères, en fait.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, la plus grande concentration, c'est toujours au printemps, quand il y a les épandages. Donc, du coup, les épandages d'effluents d'animaux qui en rentrant en contact avec la terre, en fait, dégage cet ammoniaque. Et après, il va jusqu'à Paris, hein. Ça s'arrête pas à la Bretagne, mais les émissions viennent beaucoup de Bretagne. Ouais.
Et c'est mesuré officiellement, enfin, on peut connaître ces qualités-là d'air.
Oui, alors les élevages eux-mêmes ont l'obligation de déclarer leurs émissions à partir d'un certain seuil, donc on va dire les plus gros élevages, même s'il y en a des très gros qui ne sont pas sous la législation. Et après, en ce qui concerne la mesure dans l'air officiel, il y a Airbraise, qui est donc l'association bretonne qui s'occupe de ça, et qui est l'une des moins subventionnées en France, parce que justement, ils sont censés être subventionnés par les taxes payées par les grandes entreprises pollueuses, sauf que l'agriculture n'est pas considérée comme grande entreprise pollueuse, donc voilà, ils sont très très mal subventionnés, et donc là, ils viennent d'avoir un deuxième cap l'année dernière pour donc voilà, c'est pas beaucoup, mais ils font ce qu'ils peuvent, mais heureusement qu'ils sont là pour mesurer tout ça, ouais.
La deuxième enquête, alors c'était plus de l'agroalimentaire là pour le coup.
Oui, alors la deuxième enquête, c'était sur donc Iberdrola, qui est une multinationale espagnole qui est l'équivalent d'EDF en fait en France, qui a remporté l'appel d'offres pour construire le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc. Donc très très grand projet, très contesté aussi au niveau local. Et donc nous, on n'a pas voulu rentrer dans le débat de pour ou contre éolienne, c'était vraiment pas l'idée d'aller fouiller là-dessus. On a voulu aller voir qui était Iberdrola en fait, l'entreprise qui va faire ce projet, qu'est-ce qu'elle a fait ailleurs. Et donc on a été voir justement en Amérique latine, notamment Mexique et Brésil, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans où Iberdrola a implanté des parcs éoliens entre autres. Et donc là, on a vu que c'était assez catastrophique au niveau des droits humains, où il y a eu plusieurs violations au niveau des peuples autochtones, notamment de déplacement de population, mais également de violations, on va dire, atteintes à l'environnement plutôt, de pollution, de rivières asséchées, de barrages asséchés. Enfin voilà, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et donc l'idée, c'était un petit peu de mettre en perspective, voilà, cette entreprise-là va faire des choses en Bretagne, à quoi on doit s'attendre?
Et la dernière en date qui vient de sortir là récemment?
Donc la dernière en date, c'est un volet d'une enquête qui va continuer d'ailleurs, qui va être plus large, donc sur le lobby porcin en Bretagne. donc vaste sujet également. Et donc ce premier volet en tout cas était sur un agrandissement d'une porcherie dans le Nord Finistère à Landunvez, qui est également très contestée, mais surtout qui a eu une commission d'enquête avec un avis du commissaire enquêteur qui était biaisé. En fait, c'est un petit peu ce que montre notre enquête, c'est que depuis le début, le dossier traîne depuis plusieurs années, et en fait c'est à coup de dérogation préfectorale qu'il arrive toujours à avoir les autorisations malgré les avis contraires de la mission régionale de protection de l'autorité environnementale régionale, pardon, entre autres, et d'une première enquête publique qui avait donné un avis défavorable au projet. Donc alors maintenant on se retrouve avec une deuxième enquête publique qui, enfin voilà, c'est tout ce, alors c'est très administratif, on va dire, c'est complexe de voir comment le projet finalement peut avoir lieu, cette extension de porcherie, mais c'est un peu voilà l'idée de montrer tout ce rouage et comment finalement quelque chose qui ne devrait pas se faire réussit quand même à voir le jour.
Comment on passe les barrières, en fait, quoi. Et donc ces enquêtes sont accessibles gratuitement. C'est vrai que c'est ça paraît étrange. Enfin, comment est-ce que vous en sortez à ce plan?
Alors oui, c'est vrai qu'on diffuse gratuitement en français et en breton, d'ailleurs en bilingue, et en fait on est parti du postulat que l'information est un bien commun, donc auquel tout le monde devrait avoir accès et sans forcément la payer. Donc on a repris donc le modèle de Disclose, comme je disais, qui est on s'autofinance grâce à des dons, et donc à des dons de également fondations philanthropiques. Donc on n'accepte pas d'aide publique ou d'aide de fondations d'entreprises, etc., pour maintenir notre indépendance. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'autofinancer les enquêtes grâce à ce soutien et de nous payer, nos journalistes, en fait, d'être aussi indépendants des médias eux-mêmes qui ensuite vont diffuser nos enquêtes, à qui on donne gratuitement. Mais donc voilà, on a vraiment notre boîte de production d'enquête, si on veut, qu'on gère, et ensuite on donne aux médias partenaires qui travaillent avec nous, qui peuvent apporter des choses aussi, hein, qui peuvent apporter de la cartographie ou un regard juridique, par exemple. Mais voilà, le dur des enquêtes est autofinancé par ce plan.
Les enquêtes, dont la toute récente sur la méthanisation, donc, sont accessibles gratuitement en français et en breton sur le site splan.org. Splan, ça s'écrit SPLA2N. Vous pourrez découvrir un nouveau volet donc, par jour. Elle est publiée en même temps chez les partenaires de Splan, à savoir Mediapart, France 3 Bretagne, Reporter, Basta, Le Peuple Breton, Dispac et Radio Braise.